Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Les souvenirs d'enfance, certainement magnifiés, nous paraissent généralement enchanteurs, mais en lisant ceci, on évoque plutôt les tourments d'Antoine Doinel dans le film Les 400 coups, cet enfant si vivant mais si dérangeant pour une société conformiste. Dans un ouvrage intitulé Caractériel, on découvre un jeune garçon turbulent, imaginatif, hors norme, qui essaie de retenir son enfance comme il voudrait ne pas voir disparaître une certaine France. Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Denis Tillinac. Denis Tillinac, bonjour.
Bonjour.
Voilà, un livre écrit à la première personne, des similitudes avec ce qu'on peut savoir de votre vie. Est-ce une sorte d'autobiographie ?
Il y a des éléments autobiographiques, oui, assez...
On ne peut pas le cacher.
Assez fort. Non, mais je ne veux pas le cacher.
Mais tout, effectivement, tout ne l'est pas. Bon, il y a des moments...
Non, surtout la fin.
Oui.
C'est un peintre, narrateur, en réalité.
Vous n'êtes pas peintre, vous avez des enfants.
C'est la même chose.
Voilà. L'enfance, la jeunesse permet de mieux comprendre l'évolution des hommes. C'est vrai pour vous ? Vous pensez que expliciter votre enfance, ça permet de vous comprendre
mieux ? Oui, c'est un peu un exercice d'introspection qui arrive à un moment de mon parcours où je me demande pourquoi j'ai toujours été quand même en marge dans le monde des adultes, pourquoi je suis pas devenu adulte, et puis aussi pourquoi je suis devenu un écrivain et que je découvre que mon imaginaire s'est entièrement construit entre 0 et 14 ans, comme ça, avec des éléments de briques et de broc qui m'ont servi à tisser une sorte de paradis pour contrebalancer un certain nombre de tracas.
Une réalité qui n'était pas...
De réalité, j'allais dire scolaire et domestique, qui n'était pas facile à vivre. Ni pour moi, et encore moins pour mon entourage.
Alors, on va en parler, on va parler aussi de votre imaginaire, mais on peut dire que c'est à la fois le récit d'une jeunesse et le récit d'une époque. Parce que, évidemment, il y a ce fond-là que vous évoquez, le Paris des années 50-60, et la campagne aussi. De cette époque-là. Alors, c'est une enfance qui n'est pas forcément heureuse. L'enfance n'est jamais... D'ailleurs, on a tendance à dire « Ah, c'était le bon temps », etc. Ici, plusieurs fois, il y a le mot « triste » ou « tristesse » qui apparaît dans votre livre. Effectivement, vous passez de situations difficiles, d'une bêtise à une autre, d'une situation difficile à une autre. Dans le fond, les enfants comme vous avez été, les cancres, non, abominables, ils ne sont pas heureux, en règle générale.
Non, c'est une enfance plutôt malheureuse sans qu'il y ait de vraies raisons.
Vous n'avez pas été battu.
Du tout, j'ai été aimé par mes parents, on est dans l'euphorie de l'après-guerre, plutôt du bon côté quand même de la barrière sociale, même si c'était pas bien riche. Il y avait ce paradis des grandes vacances dans le village de mes ancêtres du côté de mon père, mais aussi l'autre village de mes ancêtres du côté de ma mère. Bon, avec tout ça, oui, c'est pas une enfance facile. Vous savez, quand tous les soirs les parents s'engueulent donc il y a une espèce de culpabilité quand on peut pas venir une seule fois le matin à l'école avec son cartable sans se dire
avoir le ventre noué
quand est-ce que je vais ramasser ma colle du jeudi, ma colle du samedi, et puis quand est-ce qu'à nouveau il va être question de mon exclusion quand on est viré d'une, deux, trois, quatre écoles, et on finit par se dire bon, mais qu'est-ce qui décidément les adultes m'en veulent depuis toujours.
Et justement, je ne sais pas si vous avez vu le film que je citais de Truffaut, Les 400 coups, qui lui est dans une autre famille, hein, totalement différente. Quand même, on sent que c'est un enfant également en révolte. Vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas compris ça ?
Écoutez, d'autres chroniqueurs ou journalistes que vous m'ont fait la remarque.
Ah zut !
Mais comme je...
je croyais !
Comme j'ai pas vu une demi-douzaine de films dans la vie, que j'ai une horreur. L'horreur du cinéma.
Ah, c'est pas possible. Donc, on fait pas de référence au
donc
cinéma. Bon, mais quand même, le Paris de Doineau, vous le connaissez, les photos de Doineau.
Je connais les photos de Doineau, oui. Alors, effectivement, c'est le Paris...
de cette époque-là, en noir et blanc.
En noir et blanc, avec beaucoup de gris,
mais
et puis...
Ça colle avec votre description, oui, finalement, oui, parce que c'est grisâtre un petit peu.
C'est un peu grisâtre.
Une grisaille parisienne que moi, oui, j'ai connue et que je partage avec vous.
Oui, voyez, une grisaille, ben les pavés, souvent mouillés, la plupart des avenues, le vitrier ou le rétameur qui criait dans la rue, oui, les habillements qui étaient quand même...
austères.
Qui étaient sombres, hein, oui, s'habillaient en sombre, oui, oui, c'était beaucoup de noir et beaucoup de blanc. Oui, je ne vois des couleurs que sur les petites photos qu'on trouvait dans les tablettes de chocolat où il y avait des joueurs, oui, de football avec les couleurs rutilantes de leur maillot.
On va parler du football parce que justement, quand on voit la couverture de votre ouvrage, on voit un enfant heureux, plein de vitalité. Il y a une photo, il y a une dynamique dans cette photo. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui ne colle pas? Alors, évidemment, je ne veux pas faire de la psychologie, de la psychanalyse sauvage, Denis Tillinac, mais quand vous parlez de votre mère, on sent quand même que son rôle a été prépondérant. Mmh. Et elle n'était pas facile, hein.
Oui, elle n'était pas facile, mais je l'étais encore moins. Donc,
oui, mais attendez, ceci n'explique
si vite,
pas cela.
Si vite, sûrement, il y a un peu de... un peu d'interaction. Si vite, j'ai été si loin du modèle, du fils idéal. Je suis l'aîné. Mmh. Elle m'a chéri au-delà du raisonnable.
Hein, et vous l'admiriez.
Et puis je l'admirais. Elle était très belle, mais je me suis rendu compte à l'adolescence, pas avant. Enfant, oui, on voit pas les beaux côtés. Puis les parents n'ont, oui, pas de sexe, ils n'ont pas d'âge. Oui, ils ont pas... Donc, elle était angoissée.
Nerveuse,
elle mettait de l'électricité, donc elle était en demande d'une affection que, mmh, on avait toujours, toute ma vie, j'ai eu du mal à lui donner parce que cette électricité qu'elle a propagée était plutôt répulsive, et puis elle était obligée de me faire les devoirs.
Oui,
quand
ça,
je
c'est
revenais
le seul
de l'école.
Rôle, hein.
Oui, et alors du coup, comme elle repart par son caractère, elle était emportée, elle a fini par incarner l'instance répressive, mmh, et du coup, mon père...
au contraire, contrebalancé.
A fait du maternage, hein, oui, en quelque sorte. Alors donc, ils ont joué à Fourrure. Enfin, c'était facile pour personne, sûrement pas pour eux, pas pour eux, c'est sûr,
et
pour moi non plus.
Mais pour le lecteur, c'est peut-être un peu facile, peut-être un peu trop d'ailleurs, de voir quand même que dans la mesure où vous le dites à un moment donné, elle est peu démonstrative, elle n'aime pas les élans, la spontanéité. Hein, ça
non, elle était coincée.
Voilà, elle était coincée.
Un peu.
Donc, quelqu'un qui n'est pas chaleureux ne montre pas son amour, parce que probablement elle vous aimait.
C'est certain.
À un moment donné, vous dites, je dois à Hélène cette rétraction des sentiments qui ne m'a pas facilité l'existence.
Oui, voilà, elle était en rétraction permanente. Alors, pas avec ses amis, elle pouvait être plus détendue, mais avec ses enfants, parce que c'était une angoissée, elle a toujours peur de mal faire. Et comme moi, j'aurais quand même proposé des problèmes concrets, ou dans quelle nouvelle école le faire admettre, et donc tout de suite j'étais un gosse difficile, parce que j'avais deux sœurs, je leur tapais dessus toute la journée.
Alors, vous étiez jaloux de vos sœurs ?
Leur existence me paraissait superfétatoire. Je pense que j'aurais voulu avoir un frère.
Vous auriez suffi seul au bonheur de vos parents.
La solitude me... Non, je l'ai peuplé de mes chimères qui m'ont permis de construire un imaginaire. La solitude me faisait horreur. Je l'aime pas, la solitude. Moi je voulais un frère. Et le frère, je l'ai inventé. Alors je me donnais un frère. Mais je l'ai inventé d'ailleurs toute ma vie. Plus tard, dans des romans, je me suis toujours attribué un frère, à telle enseigne que quand j'ai publié un roman qui s'appelle Maison de famille, ou qui est assez autobiographique aussi, il y a mes sœurs, il y a ma mère, il y a la famille. Et puis il y a un frère, imagine. Et ben, les gens dans mon village sont imaginés que ma mère avait eu un fils caché avant mariage. Et évidemment, ça n'a pas contribué à la décoincer.
Oui, alors justement, pour parler encore de votre mère, je pense quand même qu'elle avait un besoin de reconnaissance, elle aussi. On a l'impression qu'elle était obsédée par sa place dans la société.
Pas sa place dans la société, elle était assez humble, mais elle avait ramené de son village, de son bourg dans le Bourbonnais, dont elle est originaire, et une espèce de fantasme de distinction qui venait des nombreux châtelains. Là-bas, il y a des châteaux, et les bourgeois du coin vivent sous l'emprise de 3 ou 4 noblaillons, diversement... cérébrée. Alors, la distinction un peu nobiliaire, donc...
Besoin de reconnaissance aussi, non?
Ouais, enfin, pas pour elle, pour son mari. Ça, enfin, elle trouvait toujours que mon père était habillé comme un sac de patates. Moi, n'en parlons pas. Alors, mes sœurs ont davantage adopté ce modèle. C'était des filles qui sont devenues élégantes et chic. Et donc, comme elle venait de la campagne, en plus, elle a voulu être une Parisienne. Elle a voulu se mettre dans... Mmh. Elle était belle. Elle avait bon goût. Elle s'y est mise très vite. Ouais, elle est devenue une espèce
toujours,
de petite Parisienne.
Toujours dans le... Oui...
Une certaine contention, quoi. Oui. Et alors, elle mettait des blazers, des culottes de flanelle, des petites soquettes blanches, des petits papillons. Il fallait avoir les cheveux courts, bien avec une raie sur le côté.
Vous n'entrez pas dans son schéma idéal.
Non, pas jamais.
Le père, en revanche, il paraît absent, c'est vrai, mais de par son métier, probablement. Encore que là aussi, on en revient, on en parle, les femmes en parlent de l'absence des pères. Mais bienveillant.
Oui, il était bienveillant, il n'aimait pas les conflits, il sentait bien que sa femme était nerveuse et que ce n'était pas la meilleure façon d'arranger les choses, en tout cas avec moi. Mes sœurs étaient assez absentes du débat longtemps, probablement, elles en ont souffert, elles n'existaient pas, parce que je posais des problèmes, je me battais à l'école.
Tout tournait autour de vous, de ce fait.
Tout tournait autour de moi, mais je m'en serais passé. Hein,
très volontiers passé. Vous auriez aimé qu'on vous oublie, parfois.
Qu'on m'oublie, oui, j'aurais aimé. Mais même plus tard dans la vie adulte, j'aurais tellement aimé... 300 ans, en tout cas, être comme les autres. Oui, mais six ans, je savais que je ne serais jamais comme un autre. Donc,
En vous lisant, là aussi, on s'interroge, parce que le rôle des parents est inversé. D'habitude, c'est le père qui représente la loi, l'ordre, ouais. la sévérité à certains moments quand c'est nécessaire.
Oui, la loi.
Qu'est-ce qui a, selon vous, provoqué cette violence qu'il y avait en vous? Vous allez me dire, voilà, c'est mon caractère, je n'y crois pas.
Alors là, d'abord, quand même, il y a une disposition du système nerveux central et de ses périphéries. Il faut bien croire qu'il y a quelque chose.
Donc, vous ne remettez pas en question.
Je peux toujours pas supporter quand quelque chose doit m'est dû d'attendre une minute.
Ah non, mais que ce soit ancré en vous, je ne le nie pas.
Et puis,
mais...
si vous voulez, il y a le plus grand mal à distinguer ce que Freud appelle le principe de plaisir et le principe de réalité. J'étais nerveux, je pense qu'une nervosité... extrême, puis une espèce d'insatisfaction, comme probablement une espèce de fierté, d'orgueil. On voudrait être un petit mâle quand on est un petit garçon, et puis on voudrait être valorisé. Donc, c'est peu dire que j'étais pas valorisé à l'école, parce que j'étais nul. J'étais un peu plus valorisé au foot, où j'étais pas au sport, où j'étais pas mauvais.
Et avec vos muscles.
Comment ?
Avec vos muscles, en vous battant.
Ouais, mais alors, quand je faisais les pompes, quand même, c'était pas Monsieur Univers.
Superman.
Et puis, quand je faisais des dribbles, c'était pas Copa non plus. Donc, il n'y avait pas grand-chose pour me donner ce qu'on appelle maintenant une estime de soi. Et moi, alors donc, j'ai essayé de m'évader, quoi. Et donc, c'est ce qui a fait de moi un faux adulte et un écrivain.
Voilà. Alors, Denis Tillinac, on va... faire une pause musicale et on va anticiper, parce que déjà là je pense que c'est adolescent que vous écoutez ça.
Ouais. Elvis Presley. Dernière année, oui, c'est la frontière de l'enfance, oui. Et de l'adolescence.
Oui. Et oui, c'est très évocateur. Et on écoute Memphis, Tennessee.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party trying to get in touch with me. She could not leave a number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree. Tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she was waving me goodbye. With hurry home drops on her cheeks that trickled from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Denis Tillinac et nous parlons de son nouveau roman, roman en grande partie autobiographique, pas totalement, intitulé Caractériel et paru aux éditions Albin Michel. Oui, alors Denis Tillinac, nous parlions de vos parents. On va parler aussi du cadre dans lequel vous avez vécu. Tout d'abord, le Paris. Alors, un souvenir du Paris des années 50, plutôt grisâtre, un univers qui paraît lointain et froid, finalement. Et même quand on voit les films, qui sont en noir et blanc pour la plupart, c'est l'impression qu'on a, en définitive. Bon, les policiers avec leur cape, ils avaient une cape noire, c'était très...
Oui, tout était... après, je me suis évertué à... Comment dirais-je, occulter tous mes souvenirs ultérieurs pour me polariser sur mes émotions d'enfant. Vous voyez, parce que le quartier Daumesnil, j'y suis revenu 100 fois, j'y reviens toujours. Vous savez, j'aime revenir sur les traces de. De toute façon, moi, ma vie, c'est une relation entre le présent et le passé. L'avenir oui, ne m'intéresse pas, n'existe pas. D'ailleurs, je peux être mort demain matin, l'avenir n'a aucun intérêt. Et donc, j'y reviens. Oui, c'était un quartier. C'était vraiment un quartier petit bourgeois, ordinaire, où les classes sociales se distribuaient. Il y avait de tout, ça se distribuait selon les étages, vous voyez. Et c'était dominé par une place autour, au milieu de laquelle se trouvait une fontaine où des 8 lions crachaient de l'eau comme ça, un peu monotonement, ils devaient en avoir un peu marre, moi je les plaignais d'être astreints à la fixité, c'était, tout ça avait été construit dans l'environnement du fameux musée des colonies a été créé à la même époque en 1900 exposition coloniale. Qui comprenait, c'est pour ça qu'on a mis ces lions, mai 1903. Voilà,
Alors, ce Paris-là, et c'est vrai, vous venez de le dire à l'instant, j'étais intéressée par le fait que finalement, c'était une autobiographie, je dirais, à l'état brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le regard de l'adulte.
Non, c'est ce que j'ai essayé de faire. Juste à la fin.
Parce que même dans vos explications, vous dites non, je suis caractériel, je suis le mauvais élève, je suis le canc. On en parlera de cette absence de.
Ça c'est délibéré. Ce que je vous disais, j'ai voulu essayer de m'abstraire de ce que j'ai pu vivre ou découvrir ou sentir plus tard. C'est pas facile d'ailleurs, peut-être se retrouver, parce que c'est quand même, ça fait un certain temps. Et puis,
bel exercice de mémoire.
Et puis comme je reviens, je suis un quartier, je reviens souvent, mais. Les villages dont il est question, j'y reviens tout le temps.
Et vous essayez d'évoquer, parce qu'il y a un endroit mythique pour vous. C'est celui où habitait votre grand-mère paternelle.
Oui, où j'y vis maintenant. Alors, c'est pour vous dire que c'est encore plus difficile.
Quel est le village?
Ça s'appelle Auriac, A-U-R-I-A-C, en Corrèze, à la frontière du Cantal.
En Corrèze.
Et c'est le terroir de ma famille paternelle.
Votre famille paternelle, oui. Alors oui, une grande attractivité, évidemment, c'est le midi pour le petit Parisien que vous êtes. C'est les vacances, symbole des vacances.
C'est les grandes vacances.
Les grandes vacances. Bon, la campagne que vous aimez tant, parce que visiblement la ville ne vous convient pas. La liberté. Parce que Dieu sait, on va en parler de cet sentiment d'emprisonnement. Et puis cette grand-mère qui vous apporte une affection énorme.
Oui, la campagne, la verdure, c'est-à-dire un paysage contrasté avec un fleuve, Dordogne, une chaîne des puits derrière, un horizon à plusieurs plans, et puis derrière l'horizon, ben, je peux me projeter tous mes paradis, tout mon bucolisme, tout mon rousseauisme imaginaire. La liberté, évidemment, puisqu'il n'y a pas...
Il n'y a pas
l'école, et puis tout ce qu'il y a autour de l'école, ça veut dire du bitume gris, des immeubles gris, sous un ciel gris, et même le rocher du zoo de Vincennes est en ciment gris. Mais malgré tout, j'avais besoin de ce rocher du zoo de Vincennes, du musée de Colli, pour m'évader avec les animaux.
Oui. Et en définitive, j'ai l'impression que finalement, vous faites moins de bêtises à la campagne qu'à la ville. Vous avez dû en faire.
Oui, ben, de toute façon, il n'y a pas cette histoire de scolarité. Donc, je fais des bêtises aussi, mais comme je suis complètement libre.
On ne vous demande pas.
Non, les bêtises, elles sont surtout à l'adolescence. Oui. Non, on ne me demande pas. On ne demande rien. Ma grand-mère était à main d'émotion. J'étais l'aîné, j'étais le mâle, oui. N'est-ce pas? Oui. Et ça comptait à l'époque. Oui. Et donc, et puis elle me vouait un amour fou que je lui rendais sans savoir aussi comment lui rendre. Parce que bon, il y avait une rivalité, même une agressivité entre ma mère et ma grand-mère, chacune croyant que j'étais un peu l'allié de l'autre. Donc, c'était pénible.
En tout cas, en fait, on peut dire quand même que vous aviez du mal à vous intégrer au monde, à la famille, à l'école, à la société. Mmh. Vous étiez toujours un petit peu en marge.
Oui, ça s'est pas arrangé. Pour ce qui est de rapport avec la société, en tout cas, ça s'est pas arrangé. Parce que j'ai tellement eu conscience toute ma vie de tricher en faisant semblant d'être adulte et d'exercer des responsabilités, de faire semblant
d'être
sérieux.
Allez, avouez quand même que justement de ne pas être adulte, c'est une bonne question. C'est une bonne raison pour bien vieillir.
Ben oui et non, parce que j'ai l'impression que je me rapproche du gâtisme en quittant l'enfance.
Alors,
j'ai évité l'écueil de l'âge adulte, mais bon, je voudrais bien rester. C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. C'est la part de moi, parce qu'à l'adolescence, on est con. On nourrit des fantasmes.
Un mauvais moment à passer.
Vulgaire, on veut être riche, célèbre, beau, enfin des conneries. Et c'est un mauvais moment à passer. Je l'ai passé d'ailleurs fort mal. Et puis l'âge adulte, quand on n'a aucune espèce d'ambition sociale comme moi, je veux pas être président de la République, je veux pas être milliardaire. Donc,
qu'est-ce qui va advenir ?
Donc, on se réfugie dans son imaginaire. Et alors donc, j'ai voulu comprendre, à mon âge, de quoi procède cet imaginaire. Ben, il est intégralement construit avec des bouts d'allumettes entre 0 et 14 ans.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi, maintenant, avec le recul, que vous étiez dans une famille où la mère était quand même assez conventionnelle, mais l'époque également était un peu étriquée, un peu conventionnelle, par rapport à notre époque.
Oui, alors ça, c'est le discours que
oui, moi je l'ai connu, cette époque.
Ça, c'est les 68 arts qui nous ont fait croire ça.
Hein. Ah, quand même.
Regardez, 68 arts nous ont fait croire que
non, il ne faut pas dire que les 68 arts ont tout fait et qu'on est tombé dans quelque chose d'idéal.
C'est pas vrai. La libération sexuelle dans la bourgeoisie noire française, un truc, c'est les années 50, c'est pas les années 60.
Alors, pensez, je pensais pas à cette génération-là, mais...
Pensez à Edieu créé à la femme de...
Oui, de Brigitte Bardot.
Où Bardot est glorieusement
à
poil.
Ah, vous l'avez vu, ce film-là,
c'est 54.
Finalement.
Ah oui, mais là, évidemment, mais Bardot...
Je vous prends la main.
Bardot, on est presque dans la théologie, là, c'est sérieux.
Le mythe.
Et, dans la mythologie, en tout cas. Bonjour, Tristesse, c'est de 54. Et d'ailleurs, les thèses de Simone de Beauvoir aussi doivent être de la même année,
oui, mais enfin,
le deuxième siècle.
Les jeunes, vous souvenez-vous, on n'avait pas de revue. Vraiment, on n'avait pas, il n'y avait pas de mode pour nous. Alors c'est peut-être les filles qui étaient dans ce cas, je ne sais pas pour les garçons, mais l'époque était quand même tellement conventionnelle.
Oui, moi j'ai pas cette impression-là.
À la preuve, vous n'aviez même pas de blue jeans à l'époque.
Non, les blue jeans à l'adolescence, mais je n'ai pas eu l'impression que ce n'était pas conventionnel. Non, au contraire, la libération avait quand même produit. Il y avait beaucoup d'enfants, il y a eu le baby boom, il y avait du cha-cha, on est passé au bebop, du pop, on est passé au rock. Tout ça, c'est entre 55 et 58. En 58, je suis à Paris de 58-60, j'achète mes premiers micro-sillons d'Elvis Presley. Oui. Elle est passée par au service militaire en 60. Tout est joué déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est pas vrai du tout que c'est les années 60. Ce qui est vrai, c'est que la vraie révolution, je veux dire, c'est la pilule. La pilule, c'est 67. Et c'est De Gaulle qui l'autorise. C'est Neuwirth qui est son ministre. Donc c'est pas les 68ards ont rien inventé de positif.
Ne parlons
si tant est que la libération sexuelle soit positif.
Mais c'est vous qui avez parlé de libération sexuelle. Moi, je parlais de la place des jeunes à ce moment-là. Écoutez, maintenant, on leur accorde une place beaucoup plus importante. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est vrai quand même.
Oui, il y a parce que là, la société française s'est américanisée. Il y a une espèce de divinisation. C'est-à-dire, la société de consommation a inventé deux niches nouvelles, l'enfant et l'adolescent, pour vendre sa camelote, et bon, effectivement, tout d'un coup, on a eu de la pédopsychiatrie, personne n'a amené un gosse
chez un pédiatre. Vous me tendez la perche. Bon, et du coup, je saute des étapes de mon questionnaire.
Non, mais allez-y, reprenez-le.
Non, mais vous me tendez la perche, parce que je me dis, mais... Nom d'une pipe, il n'y a pas eu un quelqu'un dans tous les établissements que vous avez fait qui s'est penché un peu sur vous, qui voyait... Alors, bon, vous écriviez, probablement, vous ne peignez pas.
J'écrivais rien du tout.
Oui, mais
j'essayais de dessiner, je ne te pas...
Qui n'a pas essayé de comprendre ce qui ne collait pas. Pourquoi ? Parce que vous étiez un imaginatif. Apparemment, dans vos souvenirs, il n'y a pas un enseignant, par exemple, qui sort du lot.
Si, il y en a deux personnes. Il y a ce prêtre dont je parle, qui a un rôle. Ouais. On avait un directeur de conscience qui était censé nous confesser. Et en définitive, pour moi, il était mon intercesseur auprès des autorités, le censeur, le père supérieur, comme ça, pour aller leur dire on y arrivera à quelque chose avec lui, c'est pas un mauvais diable. Bon, ce prêtre, il m'a suivi toute ma vie, enfin, je l'ai connu, je lui dois beaucoup. Et il m'aimait bien. Bon. Puis il y a eu un prof de français après à partir de la dernière école. La dernière école que j'évoque à Paris, c'est l'école Massillon, on peut le dire, chez les oratoriens. J'ai toujours été les oratoriens. Pas eu de peau. il y avait un professeur qui j'ai retrouvé plus tard quand j'ai publié des livres, parce que lui-même est un écrivain spécialiste de la culture celte. Et lui aussi, il me protégeait un peu. Il disait, attendez, on ne va pas le virer tout de suite. En cinquième, ils m'ont gardé à condition de redoubler, alors que la plupart des profs voulaient me foutre dehors. Ils m'ont viré quand même en quatrième, mais je l'avais cherché.
Je dirais que vous étiez asocial, mais pas vraiment révolutionnaire. Non, et vous l'êtes toujours pas. Parce que vous ne remettez rien en question. Vous acceptez. J'ai mes nerfs et je suis caractériel.
Je suis entre 0 et 14 ans. J'ai une conscience extrême. Oui, je sais que je suis à part et j'en souffre. Parce que c'est pas rigolo, c'est toujours que des emmerdements, mais j'ai pas conscience le monde des adultes est un monde hostile, et un jour je serai grand, et je m'en évaderai, et je m'en vaderai avec des animaux, avec des copains, avec
l'évasion.
Il y a la petite fille dont j'étais amoureux, le garçon dont j'étais amoureux, puis on partira ensemble dans une espèce d'Afrique indo-chinoise. Il y a un grand donc qui avait vécu en Indochine, et donc j'avais construit comme ça un rousseauisme un peu polychrome qui me suffisait.
Votre évasion, c'était l'imaginaire.
Oui.
Totalement.
Mais oui, et j'ai découvert que c'est ça, en fait, qui a fait de moi, qui m'a permis de survivre, j'allais presque dire physiquement, sans devenir fou, ou un fou qui est acceptable à peu près par la société, donc au prix de tricheries innombrables, et puis un écrivain peut-être. Bon, mauvais, ça c'est pas à moi à le dire.
Alors, on va écouter, toujours la même époque, je me semble, Polanka, c'était la même époque.
Je vous précise
ça. Diana, c'est le plus connu de Polanka, et on va se
revoir.
C'était dans les années...
58.
Pardon.
Told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the sky.
Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Caractériel, c'est le titre du roman, du nouveau roman de Denis Tillinac. Et en fait, il parle de son enfance, de sa jeunesse, qui se partage entre Paris et Aurillac. Une jeunesse un peu difficile, l'école parfois, quand on ne s'y plaît pas, entache justement des moments qui devraient être heureux. Alors, en fait, pour lui, c'est la prison, Denis Tillinac, pour vous, c'est la prison.
Ah oui, puis heure après heure.
Heure après heure, oui.
Avec un temps qui s'égoule comme des... qui coule goutte à goutte, comme dans
c'était
un sablier.
C'était vous sur la photo de Doineau où on voit l'enfant regardant l'horloge.
Ça okay. pourrait être, oui, regardez.
Alors, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait pour que nos auditeurs connaissent votre prose, ils ne la connaissent pas déjà. J'en ai plusieurs, mais malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps. Alors, ça commence à la page 27, il s'agit d'école.
L'école où ma cancrerie tuait le temps en dessinant un clocher de race campagne se trouvait au bout de la rue de Picpus, où les métros étaient brièvement à ciel ouvert. Les cinq rames sortaient du tunnel en gémissant. Elles dépassaient sans s'arrêter la station Bel Air et disparaissaient dans le tunnel noir vers cet ailleurs lointain, inquiétant mais désirable qu'un jour j'irai arraisonner. Un jour. On dit que les enfants vivent au présent de l'indicatif, moi au futur seulement. Un futur qui pouvait être antérieur si j'y retrouvais Ivanhoé, matinée de De Gaulle, mais le temps où un mauvais sort me consignait à titre provisoire n'était qu'une parenthèse. À l'école, outre le village, je dessinais une horloge pour me désennuyer. Je regardais celle qui disait les heures au-dessus du tableau noir et j'agrémentais de frises les contours de la mienne au crayon noir en ajournant le moment où j'allais placer les aiguilles. C'était pour gagner du temps, ou plutôt pour l'effacer, car des minutes s'étaient écoulées depuis le moment où j'avais fixé l'horloge de la salle de classe. Si peu de minutes, et un temps encore si long à endurer avant l'heure de la récré. Je gommais les aiguilles, je recommençais. Ou bien je dessinais mon blason aux armes d'un clocher, d'un milan et d'un sanglier. Le clocher de Thériac, le rapace qui parfois planait en lisière du bois de la Combe sur la route du fleuve, car l'espèce n'était pas protégée, les villageois couchaient en joue les buses et les milans s'ils approchaient du bourg. J'ai longtemps haï le cordonnier boiteux Marcel, coupable d'avoir oxy une buse qui s'était juchée sur la girouette du donjon. Quant au sanglier, il symbolisait la vie en toute liberté, dans les forêts qui, sur l'autre rive, s'étendaient jusqu'à la chaîne des puits.
Voilà, on a jamais assez parlé de la souffrance du cancre et de son imagination. Et finalement, si on notait l'imagination justement des cancres, eh bien, en général, ils auraient la meilleure note.
Oui, c'est une thèse.
C'est une thèse. Bon, parce que le mot cancre, oui, mais ça pose, on peut se poser des questions quand même là-dessus. En tout cas, vous êtes vivez dans un monde imaginaire. Mais il y a le foot quand même. Le foot, c'est le bonheur.
Bah, c'est le. En tout cas, c'est un.
Exutoire.
C'est un exutoire pour les nerfs. Je manquais probablement de beaucoup de choses, mais sûrement pas de vitalité.
La photo le prouve.
Elle était un peu débordante, donc oui, j'ai aimé le foot, plus tard le rugby et d'autres sports. J'ai pratiqué toute ma vie, j'ai la passion du sport et donc la tristesse de voir au niveau ce que l'argent et les médias en ont fait, mais ça c'est un autre débat. C'est
ouais.
un débat qui n'existait pas à l'époque. Hein.
Oui,
l'époque,
en particulier le rugby, c'était des amateurs.
Le football était des professionnels, mais des professionnels qui avaient le salaire d'un cadre moyen, qui se comportait correctement, qui avait une femme, des enfants, enfin, des, pas ces petites stars vulgaires, infantiles, capricieuses, tatouées de partout. Ouais. Qu'on inflige comme modèle à la jeunesse d'aujourd'hui, ce qui n'est pas, ce qui est plutôt inquiétant. Et effectivement, donc il y avait les parties de foot le dimanche dans un club là, où mes parents nous amenaient là en banlieue. Il y avait le foot de l'équipe de l'école, la Bagatelle, le mercredi ou le jeudi, je m'en rappelle plus. Quand il fallait jouer, je me rappelle simplement que ces jours-là, on ajournait la colle. Ça devait être le jeudi. Voilà, on travaillait pas le jeudi. J'étais évidemment collé tous les jeudis, mais bon, comme il me fallait me laisser jouer, donc la colle était reportée au samedi, un truc comme ça. Et donc, ça a joué. Plus tard, ça a été le rugby à l'adolescence. Sans le sport m'a permis de m'exprimer un peu. Oui.
En fait, à un moment donné, vous dites que vous aviez peur des adultes.
Bah, j'en ai toujours peur. J'en ai toujours peur parce qu'ils sont effrayants.
Vous êtes méfiant à l'égard des hommes.
Plus que jamais. Oui, les adultes.
Il y a des hommes bienveillants.
Ah oui, il y a des gens très bien. Non, les bien, mais le monde des adultes, je le trouve implacable, brutal. Enfin, sans bienveillance pour les humbles, les paumés, les pauvres n'en parlons pas. Mécanique, sommaire, pas faisant une mauvaise part à la sensibilité, aux nuances, à la tendresse, à la douceur, enfin à tout ce qui fait le prix de la vie, quoi. Et ça ne s'arrange pas. Mais bon, autre débat.
Écoutez, quand on est au fond de la piscine, on ne peut que remonter.
Oui, on peut dire ça. Oui, mais on peut s'asphyxier.
Alors,
puis
moi,
rester.
Je vais vous citer Jean Dormesson qui disait il faut avoir l'espérance.
Oui, mais moi, avec les doutes inhérents à la foi catholique, j'ai l'espérance d'un croyant.
Alors justement, vous étiez contre l'institution scolaire, les institutions en général, je crois, mais pas contre l'Église.
Non.
Et finalement, par rapport à ça. Vous êtes, je dirais même, le rituel, vous dites, je ne vais pas lire tout l'extrait, on n'aura pas le temps, de l'office m'intronisé dans une confrérie mystérieusement chevaleresque. Voilà. Et vous dites, ma théologie était des plus sommaire, car au catéchisme, comme aux leçons de calcul et de grammaire, je ne pouvais rien retenir. Mais qu'est-ce qui vous attirait quand même?
Oui, c'est vrai, bon, je n'aimais pas l'école. Mes parents avaient fait le choix de me mettre dans des écoles privées, comme on disait, une école libre, école catholique, en l'occurrence, les oratoriens. Et ils ont eu raison, parce que ça m'a inculqué, une espèce de foi hétérodoxe, et surtout des relents de spiritualité qui m'ont permis d'installer, qui ont pesé dans ma culture, de ma sensibilité, il y avait dans mes rêves, dans mes chimères, il y avait une vierge fluo là qui était sur la cheminée de ma chambre. Bon, je l'implorais, j'ai toujours le culte de la Vierge, parce qu'elle me sauvait un peu la mise, elle me comprenait. Il y avait ces effluves.
Une image de Marie idéale.
Il y avait la Vierge, peut-être, mais enfin, il y avait aussi les statues dans l'église de notre paroisse. Il y avait le magie des vitraux, cette pénombre. Et puis, quand j'étais enfant de cœur, le fait d'aller dans le. La sacristie. Mmh. Bon, revêtir
l'aube.
Mon aube rouge,
la
soutanette rouge à boutonner, puis avec une.
tout ce rituel,
un surplis à dentelle, hein, donc tout ça m'intronisé, oui, une espèce de confrérie, et puis je me sentais de mèche avec quelque chose d'idéal qui ressemblait à Dieu, dont me rapprochait la nature, les oiseaux qui se baladaient dans le ciel, oui. et donc ça m'a probablement sauvé, donc j'étais un cancre.
Et vous aviez un père censeur qui disait à votre mère, le fond n'est pas mauvais, madame.
Bah, c'était ce prêtre ça qui disait ça, oui, le fond, alors pas mauvais, je sais pas si Nietzsche aurait répondu, il n'y avait pas d'arrière-fond, il n'y a qu'un emmerdeur qui est un truc, mais effectivement, ça, je dois beaucoup. Donc,
puis vous aviez des questions, hein, mais ta physique,
oui, voilà,
alors,
oui.
J'éprouvais une sorte d'amour pour les morts que nous escortions, parce que vous étiez enfant de cœur, donc vous accompagniez.
Alors le village, l'été, on accompagnait les
morts.
Et
ça avait l'air de vous plaire.
J'aime toujours assez les enterrements. Les gens, ils sont moins sommaires, c'est des rats un peu moins cons, parce qu'ils sont confrontés à quelque chose et ils se posent des questions métaphysiques au moins pendant 20 minutes.
Un instant. Ouais. Alors leur voyage, outre-tombe, m'inspirait un mélange de désir et de perplexité. Leur âme, croyais-je, s'était évadée à l'instant de l'ultime soupir, de l'autre côté du ciel, assurément.
Oui, c'était théologiquement, c'est indéfendable.
Mais voilà, mais c'est pas grave. Mais en quel décor situait l'éternité? Bon, vous vous posiez des questions.
Oui, parce qu'on fondait l'éternité, comme la plupart des gens, l'éternité avec une perpétuité de temps. Alors, mais peu importe. Oui, effectivement, je me posais cette question. De toute façon, comment, j'étais tellement mal dans cette réalité que je me disais, pourquoi je suis là d'abord, pourquoi ils m'ont mis là, dans ces gens, dans cette espèce de théâtre social grisaillant et pénalisant tout le temps. Pourquoi pénaliser? C'est pour ça que vous me parliez des adultes, je m'en fais toujours. Les adultes, ils m'empêchent de picoler, ils m'empêchent de fumer, ils m'empêchent de m'obliger à mettre une ceinture qui me sert dans ma bagnole. Ils m'ont astreint à travailler pour gagner ma vie. Je veux dire, c'était vraiment pas fait pour ça. Les adultes, ils m'ont pas servi une belle soupe.
Finalement, vous êtes resté l'enfant frondeur.
Oui, en tout cas.
Mais vous acceptez de mettre la ceinture.
Allez, on va dire indocile. Non,
indocile.
Le répétez pas aux flics corréziens, mais j'ai déjà perdu 4 points parce qu'ils m'ont chopé, ces idiots, en bagnole sans ceinture.
Tant pis pour vous. Toujours est-il que dans le livre, vous décrivez l'enfant comme dessinant et on se dit, oui, au moins il a un moyen d'expression. Dans la réalité, ce n'était pas le cas. Et est-ce que vous aviez un autre moyen, par exemple, la lecture ou l'écriture?
Non, j'ai écrit plus tard. Non, j'écrivais pas tout, je lisais pas tant que ça, à part la comtesse de Ségur, bon, parce que c'était un univers aussi qu'on pouvait fantasmer et enluminer, je veux dire. Je dessinais moyennement, je pense que j'étais pas particulièrement doué, mais je dessinais toujours la même chose. Je dessinais le clocher, la maison, le mur de la propriété, l'ancien prieuré, les montagnes autour, les arbres, bon, je dessinais ça, puis à l'école, je dessinais ça. Et puis, dans mon roman, j'en ai fait un peintre, mais pour cautionner la dimension romanesque du projet. Hein, c'est pas d'accord. Tout à fait moi, mais surtout la fin.
Oui. Oui, alors on ne parlera pas d'affin pour que nos auditeurs... Mais je voulais parler de l'époque aussi, et surtout des lieux, parce que dans le fond, en vous lisant et en y réfléchissant, c'est vrai que finalement, Paris a peut-être moins changé que la campagne. Cette campagne, il y a une forme de campagne qui a disparu, en définitive.
Bah, c'est pas la campagne. La campagne est toujours belle, les villages sont toujours magnifiques. Les gens sont souvent ce qu'ils sont. Ils sont pas pires qu'avant, simplement,
ils sont plus là.
Ils sont plus là. Il n'y en a plus. On pouvait pas imaginer une telle agonie si rapide de la si antique paysannerie française. Il y avait des poules et des cochons devant chaque seuil, des cochons à porcherie, des lapins, chacun, c'était des petits pots de paillettes chez moi, de gens pauvres, mais il y avait 2, 3, 4 vaches, il y avait des gosses qui piaillaient sous les préaux de l'école, il y en avait, chaque maison était pleine, et il y avait une vie, et il y avait des boutiques sur la place, c'était une petite commune, mais enfin, il y avait une boucherie, 2 boulangers, un sabotier, un forgeron, un cordonnier, un débitant de tabac, 2 ou 3 bistrots, il y avait une vie, puis tout ça, il n'y a plus rien. Je m'y promène, j'y vis maintenant. Mmh. C'est une Atlantide oubliée par l'histoire. Je traverse ce bourg, je fais le tour de l'église, puis je reviens chez moi, et Il n'y a personne, la plupart des maisons
sont fermées.
Les volets sont clos, elles n'ouvrent qu'en juillet et referment à la fin du mois d'août, des fois un peu à la Noël. C'est les originaires, c'est-à-dire ceux qui sont là et qui, comme mon père après la guerre, partent dans les grandes villes, beaucoup à Paris, mais aussi dans l'Est, pour gagner leur vie, tout simplement. Donc, mais ils ont laissé au moins un, souvent l'aîné, rester dans la propriété.
Oui.
Et avait une femme, des enfants. Et les, plusieurs agriculteurs, jeunes agriculteurs, n'ont pas trouvé d'épouse, parce que l'épouse va le travailler, il n'y a pas de boulot pour elle. Et puis, c'est quand on est peut-être pas éleveur, mais quand on est, quand on fait des laitières, hein, quand on fait du lait, ben ça veut dire zéro jour de congé par an.
Justement, vous dites que visiblement, vous aimiez les lieux, mais vous n'étiez pas très attiré par les travaux des champs. Alors, ma question.
J'ai par aucun travaux, d'ailleurs. Je veux dire, le travail n'a jamais été. Les gens qui disent que le travail épanouit, je les laisse à leur stupidité.
Le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. En même temps, est-ce que vous, enfant, vous idéalisiez, parce que
oui,
quand même,
bien sûr,
pour la vie des gens, c'était rude.
Mais c'était pauvre, c'était très dur. Je l'idéalisais quand j'étais à Paris. Je faisais semblant de connaître le patois. Je m'inventais d'ailleurs, je vous dis, un frère qui vivait là-bas, une vie plus belle que la mienne, un chien imaginaire, parce qu'il me fallait un chien, pas de chien à Paris. Et puis, j'étais plus corrézien que nature. Et puis, j'arrivais à mon village, j'avais d'abord les copains me disaient corrézienne, parisienne, tête de chien, parigot, tête de veau. Bon, je comprenais pas. Vous savez, je suivais mon copain de l'époque pour aller.
Oui, vous aviez des attachements.
Pour aller labourer, pour aller. Pour aller faner, tout ça. Oui. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais envie de venir, rêvasser ou aller marcher seul dans les chemins en me disant qu'au bout du chemin, ben, y a le paradis, quoi.
Dans la fin de votre ouvrage, on atteint l'âge adulte. Et là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un côté un peu dépressif. Simplement une phrase.
Dépressif ?
Oui. Diable. Un monde allé à sa fin, et pas seulement par le fait que bientôt je quitterai pour toujours. Je quitterai Paris pour toujours. Et la suite m'a donné cette impression que là, adolescent... Mais l'adolescence, c'est pas toujours très gré.
Pire, parce que... Bon, au moins, cet imaginaire d'enfant, il était contrarié par la réalité, mais il avait sa fraîcheur, il m'amenait... Il me faisait frôler le paradis, puis il avait sa pureté.
Voilà.
Bon, j'étais bien avec lui, au moins. Tandis que, commencer à avoir à 14 ans, bon, c'est...
Les premières
clopes, et puis c'est ça, on commence à regarder les couvertures de Cinémonde au kiosque à journaux, on regarde sous les jupes des filles, tout ça. Enfin, il y a des appétences qui sont floues, c'est très très mal vécu. Mmh. Et je pense que c'est aussi mal vécu par les ados aujourd'hui.
Hein,
probablement. Même si ils sont censés être initiés autrement ou plus tôt, c'est peut-être même pire, peu importe. Donc j'appréhendais quand même l'avenir. Je savais que j'allais vivre dans une petite ville de province. L'idée me plaisait parce que c'était lâche, quoi. Comme je fuyais une ville où j'avais que des emmerdements, je m'imaginais que l'autre... D'ailleurs, j'ai été heureux dans cette ville les trois premiers mois.
Après ça, c'est dégradé.
Ben oui, parce que ça a recommencé,
viré. Il n'y a pas de raison. Alors, maintenant, Denis Tillac, pour terminer, puisque ça y est, nos 52 minutes...
Ben, c'est dommage.
C'est dommage, oui, tout à fait, je suis de votre avis. Cette violence, vous l'avez canalisée dans l'écriture, finalement ?
Toutes les frustrations, toutes les insatisfactions, toutes les aspirations, oui, c'est parti dans l'écriture. Ça m'a permis de pas être trop complètement infidèle à l'imaginaire de cet enfant. À qui j'ai voulu tendre la main. La violence, j'ai encore un peu de mal, mais disons, le sport, et puis un peu l'âge peut-être, font que je serais arrivé à l'âge que j'ai atteint avec un casier judiciaire vierge. C'est une espèce de miracle.
Félicitations, mais je pense que vous avez un rôle à jouer justement. Vous savez,
je crois pas aux rôles sociaux.
Je crois que le poil à gratter, c'est très bon.
Bon, mais écoutez, j'en accepte l'augure et je l'ose espérer.
En tout cas, Denis Tillac, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman intitulé Caractériel, paru aux éditions Albin Michel. Merci.
C'est moi qui vous remercie.